Prions le Seigneur. Père Céleste, on vient devant toi ce matin, tous unis ensemble dans le nom de Jésus, et on te demande d'être présent, Seigneur, au travers de cette prédication, par ton esprit, viens parler à nos cœurs, que vraiment tu puisses nous encourager, que tu puisses nous exhorter, Seigneur, et tu connais nos besoins, viens répondre à chacun des besoins que nous avons, Seigneur Dieu, ce matin, tu connais nos réalités différentes. Je te demande que ton esprit puisse prendre quelque chose de cette prédication et vraiment interpeller chacun d'entre nous ce matin, qu'on sorte d'ici vraiment encouragé, puis qu'on sente que tu nous as parlé et que tu étais là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui, dans votre vie chrétienne, avait été le facteur le plus important pour vous faire grandir? Est-ce que vous avez déjà arrêté pour considérer, parmi toutes ces différentes choses qu'il y a dans notre vie chrétienne qui nous aident à marcher dans le Seigneur, qu'est-ce qui a été le plus significatif? Est-ce que c'est les prédications? Moi, j'ai entendu une tonne de prédications super bonnes qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses super édifiantes. Est-ce que c'était des retraites, des temps forts en chrétien, le concentrer une fin de semaine où est-ce que là on est nourri, la parole de Dieu nourrit de communion fraternelle, etc. Ça a été vraiment aussi des moments puissants pour me faire grandir. Est-ce que ça a été un bon livre chrétien? J'en lis des tonnes, j'aime ça, c'est super édifiant. C'est Seigneur s'en sert dans ma vie pour me faire grandir. Mais toutes ces choses ne sont pas pour moi l'élément le plus significatif, je dirais, que le Seigneur a utilisé dans ma croissance spirituelle, mais ça a été des amitiés que j'ai eues avec d'autres chrétiens qui partageaient la même foi que moi et qui me connaissaient quand même bien et qui étaient là à chaque semaine, on se parlait, on allait prendre un café ou on allait à faire une activité sportive ensemble et ces amitiés-là, vraiment, le Seigneur s'en est servi pour faire un travail de profondeur dans ma vie. Et le thème que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est ceci. Amitié encourageante, un signe de santé. Est-ce que le sous-titre vous rappelle quelque chose? Quelqu'un? Le sous-titre vous rappelle-t-il quelque chose? Les prédications sont sûrement pas le facteur le plus important dans votre vie spirituelle. C'est une blague. Mais voilà quelques semaines, j'ai prêché sur un autre signe de santé. Et j'avais parlé d'un livre vraiment intéressant qui nous dit dans le fond que pour qu'une église grandisse, qu'elle connaisse une croissance, faut pas se fixer des objectifs qui dépendent pas de nous, comme par exemple des objectifs quantitatifs, comme on va doubler l'église en un an. Mais plutôt des objectifs qui dépendent de nous, comme des objectifs de qualité. D'ici un an, je vais être deux fois plus consacré dans ma dévotion personnelle avec le Seigneur. Et ça va paraître dans la qualité de l'Église, et quand il y a assez de facteurs de qualité dans une Église, celle-ci va grandir naturellement parce qu'elle respecte les principes de vie. Comme dans le fond, la nature, quand il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a une bonne terre, il y a les bons nutriments, ça grandit. Mais si tu enlèves un de ces éléments-là, ça grandit pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure qu'on a les bons critères de qualité. Et puis, ce matin, c'est un autre critère de qualité que je vais vous partager, qu'on appelle les amitiés encourageantes. Dans son livre, lui, il les appelle les relations amicales. Et ça va faire la promotion ici. Mais moi, le titre de mon message ce matin, à partir du texte que j'ai pris, j'ai intitulé « Amitié encourageante ». Puis je veux vous encourager à avoir des amitiés de qualité dans le Seigneur. Ça va vraiment vous faire du bien, j'en suis persuadé. Donc, on va lire Philippiens 2 aujourd'hui, versets 19 à 30. Mais avant, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Donc, Philippiens 2, versets 19 à 30. Philippiens est une des lettres que Paul a écrites alors qu'il était en prison. C'est probablement alors qu'il était en prison à Rome, comme on lit dans la fin de Actes. À la fin de Actes, on voit que Paul est dans un procès, puis qu'il est à Rome. Paul a déjà été d'autres fois en prison, mais c'est à ce moment-là qu'on pense qu'il est rendu. Et Il a déjà eu une première comparution devant le tribunal et il croit qu'il va s'en sortir. Il est assez positif. Il dit dans la lettre, ah, ça se peut que je meure, ça se peut que je vive, mais je pense que je vais, tu sais, dans le fond, je pense que le Seigneur va m'épargner pour que je puisse continuer de vous édifier dans la foi. Je paraphrase, mais Paul est rendu à ce moment-là dans sa vie. L'Église de Philippe lui a envoyé un frère, Épaphrodite, pour l'encourager et lui apporter des dons. Donc, ayant entendu que l'apôtre Paul était en prison, qu'il y avait des épreuves, les chrétiens de la ville de Philippe ont décidé de lui envoyer des dons monétaires, peut-être des vêtements, des choses comme ça, pour l'aider matériellement, mais aussi la présence d'un frère qui va rester avec lui pendant un temps pour le servir et pour l'encourager, pour le fortifier dans sa foi. Et puis, la raison pour laquelle Paul a écrit Philippiens, c'est entre autres parce qu'il y a eu un petit problème. Il y a eu un petit problème et Épaphrodite est tombé malade, mais vraiment malade. Pas une gastro, là. Il a pogné, je sais pas c'est quoi, c'est pas dit qu'est-ce qu'il a attrapé comme maladie, mais il était sur le seuil de mourir. Il a vraiment failli mourir. Et finalement, à cause de cela, ben il va retourner plus tôt à Philippe. Et là, Paul écrit aux Philippiens de bien le recevoir. Il n'a pas échoué sa mission. C'est pas parce qu'il arrive plus tôt que prévu qu'il faut que vous commenciez à le critiquer ou tout ça. Non, non, recevez-le comme un homme qui a offert sa vie pour le service du Seigneur. Et recevez-le comme un homme de foi, etc. Donc, c'est pour cette raison-là que Paul écrit aux Philippiens, entre autres. Aussi pour préparer la venue de Timothée qu'il va envoyer. Aussi pour les encourager. Aussi pour d'autres raisons, mais la principale, c'est celle que je viens de parler. C'est intéressant de voir que l'Église de Philippe, les Philippiens, là, c'est vraiment la fierté de Paul. C'est une Église que Paul il dit qu'il chérit dans ses lettres. Il y a vraiment un amour ardent pour les frères et les sœurs qu'il y a à Philippe. Et même que dans d'autres épîtres, il vante un peu. Il prend les Philippiens en exemple, comme qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils se sont volontairement là, dépouillés du petit peu qu'ils avaient pour donner pour d'autres qui étaient encore plus dans le besoin à Jérusalem alors qu'il y avait une famine. Donc, Paul les prend en exemple, Paul est fier des Philippiens, il y a beaucoup d'amour pour eux, il y a une bonne relation avec les Philippiens. Les Philippiens supportent Paul dans son ministère, alors que ce n'est pas toutes les églises qui le font. Eux, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Donc, il y a vraiment une belle relation entre Paul et les Philippiens. On appelle la lettre aux Philippiens l'épître de la joie. 15 fois, on parle de la joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous avec moi, je me réjouis avec vous, que votre joie soit entière parce que nanana. Donc, beaucoup, c'est vraiment une épître positive. C'est Seigneur, il fait des belles choses, puis on se réjouit ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est que en même temps, puis surtout dans notre passage, malgré cette emphase, Paul ne cache pas son besoin de support et d'encouragement. Tu vois, dans le milieu de l'épître, ce qu'on va lire dans quelques instants, que tu vois que Paul, il parle de joie, mais à un moment donné, il parle aussi qu'il y a des tristesses. Des fois, il passe dans des étapes, puis il est rendu à un moment où est-ce qu'il a besoin d'encouragement, il a besoin de ce support qu'il vient de recevoir. Dans le fond, il est vraiment reconnaissant parce que c'est pas toujours facile, le ministère, ce qu'il est en train de faire. Le choix qu'il fait pour le Seigneur, des fois, il y a besoin quand même de cet encouragement-là. Donc, c'est toutes des choses qui vont nous aider à plus apprécier le texte qu'on va lire. Donc, maintenant, tournons ensemble dans Philippiens 2, versets 19 à 30. Ce qu'on va voir, c'est que c'est pratiquement juste Paul qui donne des nouvelles et qui prépare le terrain. Il n'y a pas vraiment beaucoup de commandements là-dedans, mais on va voir qu'il y a dans cette description qu'il fait, il y a des choses vraiment intéressantes pour nous. Philippiens 2, 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. J'espère donc vous l'envoyer dès que je verrai clair dans ma situation et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honoré de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Amen. Vous voyez déjà un petit peu là, la joie versus la tristesse, comme un petit mélange. J'ai été tenté de commencer le texte de base par les deux versets qui précèdent, le verset 19, donc le verset 17 et 18. Paul dit ceci: mais même si je sers de libation en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Juste les deux versets avant ce qu'on vient de lire. Dans le fond, Paul dit « réjouissez-vous avec moi » et « moi, je me réjouis avec vous ». Et même si je suis en train de servir d'offrande, de sacrifice à cause que je suis en prison et on ne sait pas trop ce qui va arriver de moi. Et avez-vous vu un petit peu Paul il dit, je me réjouis avec vous, réjouissez-vous avec moi. Il parle beaucoup de la joie, mais en même temps, ce qui me frappe, c'est le verset 28, où est-ce que Paul il dit ceci, il dit que, excusez-moi, ouais, c'est verset 27, où est-ce qu'il dit que dans le fond, Dieu a eu pitié d'Épaphrodite, et non seulement d'Épaphrodite, mais aussi de Paul, lui, afin qu'il n'ait pas tristesse sur tristesse. C'est pas juste une petite pensée, là, tu sais. C'est tristesse sur tristesse. Mais en même temps, il dit, réjouissez-vous, je me réjouis avec vous. Fait que c'est comme si d'un côté, dans le Seigneur, il y a cette foi, il y a cette confiance, il y a cette joie. Il est en train de travailler à quelque chose qui a une valeur éternelle, infinie. Mais en même temps, dans le moment présent, là, il y a quand même, il trouve ça dur quand même. Puis des fois, il y a cette tristesse-là qui, des fois, peut s'accumuler. Et puis, il y a besoin de, premièrement, qui est mon premier point, il y a besoin d'encouragement. C'est la première chose qu'il dit. Regardez, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. La première chose qu'il leur dit, c'est qu'il espère que l'envoi de Timothée va l'encourager quand il va revenir. Dans le texte, c'est comme s'il y a deux boomerangs, dans le fond. Il y a comme premier boomerang, c'est les Philippiens envoyés Épaphrodite, et Paul leur envoie. Mais là, Paul leur dit en même temps, moi, je vous envoie Timothée, mais il va revenir, puis il va me donner des bonnes nouvelles, puis je vais être encouragé. Fait que c'est comme si, au travers de ces relations-là, il y a vraiment un encouragement, il y a vraiment un support mutuel, et puis on peut partager les difficultés qu'on vit, etc. Et ça fait du bien à l'homme de ne pas se sentir isolé. Je vais plus vite que mes notes. On va rattraper ça. Bon. Il y a un prédicateur que j'écoute. Il partageait un petit peu là, une expérience qu'il a eue. Avez-vous peur des hauteurs, vous, personnellement? Quelle personne ici qui a peur des hauteurs? 1, 2, 3, 4, 5. Et lui aussi, il a peur des hauteurs. Et il était par l'escalade. Puis tu sais, quand tu fais de l'escalade, c'est pas si pire tant aussi longtemps que tu regardes en haut. Puis que tu montes comme ça, puis là, il y a d'autres personnes qui te précèdent. Mais une fois rendu en haut, toute l'équipe, on dit on va redescendre. Et là, il regarde en bas, puis là, wow! C'est pas comme quand je suis monté. Et plusieurs commencent à descendre, et là, il reste juste lui puis une autre personne, et il commence à hyperventiler, commence à être stressé, au point de je sais pas si je vais être capable, tu sais, puis il a beaucoup de stress. Là, il reste une personne avec lui, et la personne, avant de descendre, elle regarde, elle dit, elle tape sur sa poitrine comme ça, elle dit, je sais, tu es capable. Puis elle fait juste descendre. Puis là, ça l'a juste saisi, puis ça l'a comme redonné la confiance qu'il a besoin, juste pour descendre. Et c'est une chose très banale, hein, ce que je suis en train de vous conter, mais des années plus tard, ça le marque encore. C'est quelque chose qui l'a encore frappé, cette petite seconde où juste quelqu'un lui a tapé sur son chest, en anglais. Je sais que tu es capable. Puis, on continue, puis on descend ensemble, tu sais. Puis, des fois, juste des petits mots, des petits encouragements, ça fait vraiment du bien à l'âme. Moi, j'ai levé ma main quand j'ai posé la question s'ils avaient peur des hauteurs. Je me souviendrai toujours, ma première semaine, j'ai travaillé à Ottawa pour une compagnie de chauffage, climatisation, ventilation. Il fallait aller sur le toit. Et c'était une grande échelle, pas attachée, d'un étage et demi. Fait que c'était assez haut. Et là, comme le Scott Gibson, le prédicateur, vient de vous parler, je monte, pas de problème, je vais sur le toit, je vais voir la personne qui me dit, ben, j'ai rien à te montrer ou j'ai pas besoin d'aide. Fait que, OK, je me retourne. Mais là, j'arrive devant l'échelle et là, elle est pas attachée. Et là, je regarde en bas et là, je suis comme. Et là, je me dis, OK. Okay. Là, j'essaie de visualiser, ça va bien aller, tu vas faire ça comme ça. J'essaie de prendre confiance, et là, pendant 5 minutes, je suis comme ça, devant l'échelle, et là, j'essaie de la figurer, j'essaie de m'imaginer. Ouais, et puis là, je regarde en bas, puis là, je m'imagine que l'échelle, elle tombe comme ça. Là, après 5 minutes, le gars qui était sur le toit, il vient vers moi, et là, il me voit, qu'est-ce que tu fais encore là? Là, après, là, il voit que je suis un peu stressé. Là, il dit, ah, OK, ben, je vais t'aider à descendre, tu sais. Fait que là, il a descendu avant moi, il était en bas, il a tenu l'échelle. Et là, tout de suite après, ça m'a donné confiance. J'ai tout de suite fait boum. Et là, j'ai descendu comme si de rien n'était. Mais pendant 5 minutes, j'étais vraiment préoccupé, j'étais vraiment. Mais juste le fait qu'il passe devant moi, qu'il me dit, je suis là, je tiens l'échelle en bas, ça l'a vraiment aidé. Donc, ça fait du bien. On a besoin d'encouragement. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Amen. Paul aussi avait besoin d'encouragement. Et il l'a dit. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir une amitié qu'il y a dans la Bible. C'est David et Jonathan. Et David, bon, dans les chapitres qui précèdent, bon, parce qu'à un certain point, Samuel, le prophète, il vient chez son père pour le oindre en tant que roi. Mais il y a encore un roi qui est Saül, qui règne sur Israël. Donc, ce qui se passe, c'est que là, il va aller vers le roi, il va être le joueur de harpe. Et le roi ne sait pas encore qu'il a été oint par Samuel pour devenir roi. Mais là, il va se passer plein de choses, comme il va éventuellement battre Goliath. Et il va gagner en popularité, David. Et un point tel que Saül va commencer à le persécuter, commencer à essayer de le tuer à plusieurs reprises, et David va fuir. Mais avant que David fuit, Jonathan, qui est le fils de Saül, a vraiment été touché par la foi de David, et il a vraiment comme été vers lui, puis il a initié une amitié. Ils vraiment sont devenus des bons amis, une alliance ensemble. Et même si Jonathan, c'est son père qui est roi. Jonathan est plus du côté de David que du côté de son père. Parce que pour lui, David est vraiment un homme de Dieu. Et il voit que son père, lui, a de la misère au niveau de sa foi, a de la misère au niveau de son leadership. Et donc, Jonathan est vraiment ami avec David. Quand on va lire ce passage-là, Jonathan va vers David. Il prend le temps d'aller au désert. Regardez ce qu'il fait. 1 Samuel 3, versets 14 à 17. 1 Samuel 3, 23, 14 à 17. Excusez-moi. Donc, David resta au désert, dans les fortins, et il resta sur la montagne, dans le désert de Sif. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie, bon, tenter de le tuer. David était au désert de Sif, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et se rendit vers David dans la forêt pour... Quelqu'un est là? Pour affermir son courage en Dieu. Pour affermir son courage en Dieu. Intéressant. Hein? Pas juste pour affirmer son courage, point. Pour affirmer son courage en Dieu. Pour lui dire, le Seigneur est avec toi, le Seigneur te dit comme roi. Et écoutez bien ça, c'est frappant parce que David était le successeur de Saül. Ça a été, excusez-moi, Jonathan était le successeur de Saül. Donc, ça aurait été lui qui aurait dû être roi, le prochain roi. Saül meurt, c'est Jonathan qui est roi. Il est dans la lignée royale, il est né. Mais non, Jonathan, il va vers David, puis il s'humilie, il dit dans le fond, c'est Dieu qui t'a choisi, je l'ai vu, j'ai vu ta foi, Dieu est avec toi, on l'a vu avec Goliath. Il prend la peine d'aller dans le désert pour l'encourager, pour affirmer son courage en Dieu. Avez-vous un frère, une sœur dans votre entourage qui affermit votre courage en Dieu? Good. Ça fait du bien, alors. Sérieusement, moi, j'en ai, je rends grâce à Dieu. Ça fait du bien. C'est vraiment, on a besoin de ces personnes-là à tous les moments de notre vie, et encore plus quand on passe par ces tristesses, par ces moments plus difficiles, par ces épreuves. Je veux vous encourager à encourager. C'est-tu un pléonasme? C'est... Bon, je pourrais continuer à ce point-là. Peut-être que je vais le faire vite fait. Je suis un joueur de hockey. Hein. J'ai joué au hockey de 4 ans à 7 ans dans une ligue. Et c'était vraiment des belles années de ma vie. Et toute dernière année, j'étais capitaine. Et on a fait un tournoi à Buckingham, à quelques maisons de la femme que j'allais épouser des années plus tard. Je ne savais pas. Mais bref, on a fait un tournoi à Buckingham et tout allait super bien. En semi-finale, par exemple, ça va mal. On se fait compter le premier but, 1-0. Pas de problème, moi je suis capitaine, j'essaie d'encourager les autres. Let's go les gars, on lâche pas, on va l'avoir un autre puis on vient à ce départ. 2-0. Let's go les gars, la partie est tôt encore, faut pas lâcher. 3-0. On lâche pas les gars, let's go. Là, je me dis à l'intérieur, si ça va à 4-0, là, c'est fini, là. C'est comme leur dire, on va essayer de sauter plus haut pour atteindre la lune. À 4-0, on oublie ça. Mais du temps à l'intérieur. Et là, boum, 4-0. Et là, j'étais comme, c'est pathétique. Mais là, je me saisis et là, je me dis, OK, on va continuer quand même d'encourager. Et là, OK, let's go, les gars, on lâche pas. Il reste quand même la moitié de la game. On sait jamais. Faut donner tout ce qu'on a. Puis amusons-nous. Au pire, c'est pas grave. Puis let's go. Puis garde une attitude positive. Et là, 4-1. Puis là, oh, let's go, les gars, là, on sait jamais. Let's go. 4-2. Puis là, 4-3. Et là, le momentum était rendu de notre bord. Là, tout le monde était là. Ouais, let's go. Ah! On était en guerre. Et là, 4-4. Et on va en prolongation. Et là, c'était comme le moment de hockey le plus fort de ma vie, de toute notre vie. Et let's go, les gars, on va l'avoir. Le boom, on gagne. 5-4 en prolongation. Et ça a été vraiment, vraiment un beau moment de hockey, un beau moment où est-ce que, comme même quand mon encouragement me semblait presque irrationnel, c'est comme même si ça me semblait comme être, t'es-tu en train de parler pour parler? Non. Tu gardes une attitude positive, tu gardes un climat de joie puis de positif. Et ça fait la différence. Et puis, je vous encourage vraiment, vous, à encourager les autres autour de vous et d'être un ami pour quelqu'un, mais aussi de vous entretenir dans vos amitiés, d'appeler quelqu'un et puis d'entretenir cette amitié-là parce que cette personne-là aussi exerce le même ministère, si on veut, à votre égard, à notre égard, et ça fait du bien et on en a besoin. Amen. Premier point, ça va être long, hein? C'est un peu complémentaire.
Moi, mon amitié que j'ai avec la personne, moi, mais je suis sûre que quelque part, moi, je l'ai dans mon confort, dans mon échange, tout ça. Et des fois, c'est pas juste un sens comme ça. Je suis sûre que Dieu va marquer une solution pour édifier aux personnes pour vous donner la souffrance et
Absolument, c'est un très bon point que tu apportes. Une amitié, c'est réciproque, hein. C'est pas comme du mentorat, c'est pas comme une personne plus expérimentée qui dit à l'autre, dans le fond, toute la sagesse qu'il a. Mais c'est réciproque. Les deux ont de la sagesse, les deux ont de l'expérience, les deux, le Seigneur est dans notre vie. Puis c'est mutuel. C'est dans les deux côtés. C'est réciproque, ouais. Un peu plus loin, dans le verset de base qu'on a, Paul, il dit, juste après le verset qu'on vient de lire, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. » Une personne qui partage nos sentiments, moi j'appelle ça un ami. Pas juste quelqu'un qui partage certaines pensées que tu as, certains points de vue sur la vie, ta politique, ta perspective sur les religions, mais qui partage même ton cœur, tes sentiments. Ça, c'est vraiment un ami. Je peux avoir une discussion avec une personne dans l'autobus, mais je ne vais pas dans l'autobus, mais disons. Puis on pourrait avoir le même point de vue, être comme au même diapason sur le plan intellectuel, mais c'est pas un ami. C'est une connaissance, c'est un inconnu. Mais quand on est au diapason au niveau du cœur, au niveau du sentiment, ah ben là, ça fait vraiment une différence, ça fait du bien. Et Paul, il se plaint, là, un petit peu, il se plaint. Il dit qu'il n'y a personne qui partage ses sentiments. Et là, à comprendre qu'il exclut Timothée et Épaphrodite, évidemment, parce que c'est sûr que Timothée et Épaphrodite se soucient de la situation bien, parce qu'il, dans Épaphrodite, il dit qu'il désire ardemment les revoir un peu plus loin, et Timothée va aller les visiter, donc c'est sûr qu'il a à cœur, dans le fond, les mêmes choses que Paul. Mais excepté ces deux-là, qui va bientôt partir, Paul va se retrouver seul, sans amis, sans personne qui partage ses sentiments, et ça, il trouve ça quand même un peu dur. C'est pour ça qu'il veut avoir Timothée. Il ne veut pas leur laisser. Ça me rappelle une histoire, le Seigneur dans le jardin de Gethsémané, hein? Alors qu'il va vivre le moment le plus dur, non pas juste de sa vie, mais que toute l'histoire de l'humanité va reconnu. Parce qu'un martyr, il y en a eu plein d'autres après Jésus. Il y en a même qui, ça s'est bien passé, ils ont gardé la foi, puis c'était comme, c'était pas si souffrant. Mais Jésus, c'est pas juste un martyr qu'il va vivre. C'est aussi le fait qu'il porte le péché de l'humanité, la culpabilité de l'humanité entière, et qui va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, qui va se retrouver seul. Donc, ici, il anticipe ce moment-là, et alors qu'il est dans le jardin de Gethsémané, vous souvenez l'histoire, la plupart d'entre vous, il demande aux disciples de supporter dans ce moment dur de sa vie, d'être là avec lui pour ça. Et là, il leur dit « Priez, et puis je reviens », il prie, Jésus va plus loin à l'écart, il prie, il revient, il dort. Ils sont pas là pour, dans le moment le plus important de sa vie, le plus difficile, que Jésus, parfait, il a besoin de support, il a besoin de personne avec lui. Puis, trois fois, c'est arrivé. Jésus part, revient, il dort. Donc, on est tous imparfaits, mais on voit que le point que je veux souligner avec ça, c'est que même Jésus avait besoin de cette présence-là, d'amitié encourageante. Même Jésus. Donc, c'est pas un signe de faiblesse, d'avoir besoin. Au contraire, c'est un signe d'humanité. Et quand on y pense, l'enfer, c'est quoi? Premièrement, l'enfer, c'est l'isolement, c'est la séparation. C'est d'être justement coupé de Dieu, qui est l'amour, la joie, tout ça. C'est d'être coupé de Dieu et coupé aussi des autres. T'es rendu seul, entre autres. Mais c'est d'abord une séparation, l'enfer. Donc, on a besoin les uns des autres comme ça. Avez-vous des objections au fait que vous avez besoin d'amitié encourageante? Personne qui veut débattre avec moi? Vous êtes sûr? Je vais débattre. Demandez à ma femme.
Non, c'est loin.
En théorie, on peut ne pas. Mais dans notre pratique, des fois, ça peut témoigner qu'on en a certains. On peut en avoir. Gordon MacDonald, qui a toute une partie, 4 chapitres, sur l'importance de traverser la vie avec une bande d'amis, parle de certaines réflexions vraiment intéressantes. Puis il y en a une qui, malheureusement, a inspiré, dans le fond, ça a été inspiré même d'un chant qu'on chantait à l'église qui dit essentiellement « J'ai le Seigneur dans ma vie, je n'ai plus besoin de personne ». C'est quelque chose comme ça. Et ça peut être une idée qu'on a dans notre tête. Le Seigneur, dans le fond, est présent. Le Saint-Esprit m'habite, il m'encourage, puis, dans le fond, je suis comblé à ce niveau-là. Puis, ma réponse à une telle personne, quand je vous dis j'aime débattre, ce que je dirais, c'est si on n'avait vraiment pas besoin les uns des autres, parce que le Seigneur est dans notre vie, alors Dieu n'aurait pas créé Ève à Adam, parce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il était parfaitement en relation avec Dieu à ce moment-là. C'est vrai? Donc, même Adam, dans un paradis, dans un lieu parfait avec Dieu, communion, sans obstacle, tout est beau, a besoin de quelqu'un, a besoin d'une personne qui soit son égal et qui partage la vie avec. Il y en a plusieurs d'autres comme qui, en pratique, peuvent venir nous rattraper sur le fait qu'on nourrit pas nos amitiés. J'ai pas assez de temps. Ma famille, mon travail, mon couple, tout ça, ça me demande déjà tout mon temps, donc j'ai pas assez de temps, ou bien ou des raisons qu'on serait pas prêt à admettre, mais au fond de notre cœur, on veut pas trop développer nos amitiés parce qu'on veut pas s'ouvrir. On veut garder caché certains aspects de notre vie, ou on a peur d'être blessé. C'est toutes des raisons qui font en sorte qu'on peut ne pas entretenir ses relations avec d'autres personnes. Et puis en pratique, ça fait en sorte que on n'appelle pas quelqu'un pour prendre un café, ou on n'invite pas une personne à souper ensemble, ou à aller faire une partie de badminton, ou peu importe. Donc, c'est toutes des raisons qui peuvent être là dans vos cœurs. Et je prie que le Seigneur, dans le fond, détruise peut-être ces mensonges-là que des fois on peut croire. Quelques bénéfices sont évidents. Évidemment, celui d'être encouragé dans notre foi, celui d'être fortifié. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Dieu nous parle au travers de nos amis. Hein. Des fois, ils nous connaissent bien, puis des fois, c'est même pas intentionnel. C'est juste, notre ami nous raconte quelque chose dans sa vie, puis là, ça fait écho à quelque chose que nous, on vit. Et là, ça fait juste du bien. On voit que c'est comme si le Seigneur veut nous dire quelque chose. Il nous aide à discerner. Il nous pousse à porter une plus grande attention aux réalités de la vie. Un de mes amis, c'est un prophète des temps modernes. Connaissez-vous un prophète? Le prophète des temps modernes, c'est qu'il est capable d'avoir un problème dans une église ou dans une société et de vraiment comme parler contre ça. C'est vraiment là comme promouvoir, dans le fond, essayer de rassembler les gens, puis essayer de combattre un problème qu'il y a dans l'église ou dans la société. Et le problème, c'est que c'est vraiment comme sa perspective. Il voit le problème, puis il veut vraiment rallier tous les gens pour régler ça. Mais s'il ne rallie pas les gens, ah ben là, voyons donc, c'est la priorité, il faut régler ça. C'est comme, c'est un combat qu'on doit mener pour Dieu, etc. Et là, il s'isole parce qu'il n'y a pas toujours le monde qui veut à sa suite, dans le fond. Et moi, quand j'ai des discussions avec lui, des fois, je pense qu'une des choses que le Seigneur utilise au travers de notre amitié, c'est ma perspective pour dire, « Ouais, mais les gens, là, ils ont des réalités que peut-être tu connais pas, tu sais. C'est un homme célibataire, mais les gens ont un couple, une famille. Ça demande du temps, ça demande des préoccupations et tout. Ils peuvent pas s'investir dans mille et une causes, tu sais. Ils sont plus limités. » Fait que juste donner une plus grande attention aux réalités de la vie, ça fait du bien des fois d'avoir une autre perspective. Mais ce même ami-là, lui, il m'a soutenu à un moment donné. Est-ce qu'il fait juste me poser une question sur j'étais aux études. Comment ça va, Sonny? Je suis pas trop. Financièrement, il m'a dit ça. Et là, je suis devenu vraiment comme émotif un peu. Et il a vu que j'étais comme pas mal sur le bord, là. Puis il a vu mon besoin, puis il m'a donné vraiment une somme significative pour m'aider. T'sais. Fait que c'est réciproque. T'sais. C'est d'un côté tantôt, d'un côté de l'autre, d'un autre tantôt, mais on a besoin de ça. Dernier point. C'est important que ces amitiés-là soient dans l'intérêt du Seigneur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et ça revient rejoindre l'histoire que je vous ai contée de David et Jonathan, qui est venu pour fortifier son courage en Dieu. Une des choses les plus intéressantes que j'ai faites avec des frères et sœurs, c'est des choses spontanées dans le Seigneur. Avez-vous fait des choses des fois spontanées dans le Seigneur avec des frères et sœurs? L'autre fois, j'ai écrit ma petite bande d'amis en visite. J'ai beaucoup d'amis à Gatineau, évidemment. On a passé beaucoup d'années là-bas. Et quatre d'entre eux sont venus nous voir, moi et ça, à la maison. On a passé une soirée ensemble, on a eu un souper et tout. Et à un moment donné, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être un mois et demi, et j'étais dans le thème des dons spirituels, parce que j'ai fait une formation ici sur ce thème. Et j'ai pris une feuille qui est une liste de tous les dons spirituels. On a fait un exercice ensemble. J'ai dit, ça vous tente-tu de faire un exercice sur les dons spirituels? Puis on essaie de discerner ensemble c'est quoi les dons qu'on pense que l'on a. Et là, pendant une heure et demie, on a rempli les questionnaires pour chacun. Puis après ça, on a pris le temps, on a fait le tour. Puis on a dit, moi, je pense, Elsa, que tu as tel don, tel don, tel don. Et là, après ça, une autre personne disait tout à Elsa ce qu'il pensait qu'elle avait comme don. Et là, c'était vraiment, vraiment édifiant. Même qu'à certains moments, on s'est rendu compte qu'on avait des dons qu'on pensait même pas avoir. Moi, mes trois amis, quatre amis m'ont dit qu'ils avaient tel don que même moi et ça, on n'avait pas vu. Puis à un moment donné, je dis, ben, je suis pas sûr, là, donne-moi un exemple. Et là, boum, 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 puis là, finalement, ah, ben, OK, peut-être, c'est vrai, hein? Il m'aide à voir quelque chose dans le Seigneur que moi, je voyais pas. Et Elsa, à la fin de la soirée, a dit, je me sens comme cinq super-héros là, qui s'en vont conquérir le monde pour Dieu. On a plein de dons et là, on a plein de pouvoirs spéciaux et là, on va conquérir le monde. Mais ça fait du bien là, d'être avec des amis, mais des fois, de faire des choses spontanées, pas organisées par l'Église, rien, mais qui va vraiment nous édifier. Lire un passage de la Bible ensemble, aller peut-être à une conférence, je sais pas, mais qui va vraiment faire du bien à l'âme. Je pourrais vous en compter un autre, peut-être, je vais finir avec ça. Quand j'étais à Gatineau, encore une fois, j'étais avec des jeunes adultes, on dînait, et à un moment donné, j'ai partagé mon désir, j'avais vraiment à cœur d'évangéliser, et le moyen que le Seigneur m'avait donné pour le faire, c'était de faire des sondages dans les rues. J'avais à cœur d'essayer ça. Et je l'ai partagé avec des jeunes adultes à un dîner après l'église. Et puis, une d'entre elles a dit, ah, j'ai déjà fait ça. C'est super agréable. C'est vraiment un bon moyen d'entrer en contact avec les gens. Puis moi, est-ce que si tu veux le faire, ben, je serais partant. Fait que finalement, Elsa, elle, moi et un autre frère, on a pris notre table là, en carton là, avec le petit clip. Là, puis on a fait un petit sondage. Puis on était dans les rues et on a sondé des gens. Et ça a été vraiment des expériences incroyables. Là. Comme Elsa et Christine avaient rencontré une personne âgée. Et c'était vraiment une personne là, qui était prête à en fond, elle réfléchissait beaucoup, dans le fond, à la prochaine étape, là, la mort et tout. Et elle était vraiment prête à accepter le Seigneur. Et fait que ça a été vraiment bénissant pour elle à ce niveau-là. Je pourrais pas compter en détail. J'étais pas là. Moi, j'étais avec mon autre frère et on parlait avec un philosophe. Et on avait des débats intéressants. Et j'ai pu lui présenter aussi le Seigneur, mais c'était vraiment fait d'une bonne manière. Et quand on est revenu ensemble, on était tellement dans la joie, on était tellement comme remplis du Saint-Esprit d'avoir fait la mission ensemble, quelque chose de concret ensemble dans le Seigneur. Et ça a vraiment, vraiment été stimulant dans notre foi. Je vais lire ce passage-là. Deux derniers passages avant de compléter la prédication. Encore dans Philippiens. Chapitre 1, verset 8 à 11. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Ça, c'est mon message pour vous. Je vous aime, je vous chéris, je prie ça pour nous, qu'on puisse grandir en amour et en vraie connaissance, vraiment se connaître les uns les autres et qu'on puisse discerner les choses les meilleures. Est-ce qu'il y a vraiment d'importance dans la vie? Les relations, ça en a. Et qu'on puisse, que tout ça puisse culminer dans la gloire de Dieu, qu'on puisse devenir irréprochable et puis vraiment s'encourager mutuellement dans la foi. Donc, c'est ma prière pour notre Église. Et enfin, ce verset. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Deuxième critère de santé d'une Église. Relations, des amitiés encourageantes. Des vraies amitiés. On peut peut-être pas tous être amis, là, meilleurs amis avec tous ici et chacun, mais prenez le temps de faire des pas vers une personne puis développer plus une amitié profonde avec une personne de l'Église ou un autre frère ailleurs que dans cette Église-ci. Mais prenez le temps, c'est important. Ça va vous faire du bien. Ça va faire du bien à une autre personne. Et le Seigneur va être glorifié. Le Seigneur va faire un travail encore plus en profondeur dans nos vies. Et tout ça va culminer dans sa gloire. Amen. Prie ici. Seigneur, tu connais nos besoins et tu veux nous faire du bien. Tu veux nous encourager. Je te prie pour que nous puissions, par ta force, Seigneur Dieu, juste faire la place nécessaire dans notre horaire, dans notre agenda, pour entretenir nos relations d'amitié dans le Seigneur et qu'on puisse aussi, des fois, y inclure des éléments qui font en sorte que vraiment ça vise ton intérêt, ça vise notre édification, puis ça fait vraiment du bien à notre foi, Seigneur. Je te demande de, si des personnes ici se sentent seules, se sentent isolées, Seigneur, que tu puisses leur donner de voir qui est cette personne vers qui ils pourraient faire les pas pour développer cette amitié. Et que tu puisses les encourager. Et Seigneur, je te demande de vraiment bénir cette Église, faire en sorte qu'elle soit en santé, qu'elle soit en croissance, Seigneur Dieu. Et merci parce que tu es dans ta main et tu vas en prendre soin jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen.